Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. Comment s'émanciper de la dépendance au gaz et au pétrole russe tout en s'orientant vers des énergies propres promises dans le pacte vert européen? A priori, les deux objectifs sont compatibles, mais l'urgence rend ce virage très difficile à négocier. Les découvertes d'importants gisements de gaz en mer Méditerranée pourraient-elles constituer une solution? Le projet de gazoduc EastMed, évoqué en 2020, est pour l'instant au point mort, et ce n'est peut-être pas la guerre en Ukraine qui va lui redonner vie. C'est le reportage à Athènes de notre correspondant Joël Brenner.
Il était une fois, dans les profondeurs de la mer Méditerranée orientale, le surgissement d'un monstre marin chimérique, le Léviathan. Nous sommes alors en 2010, au large des côtes israéliennes, et c'est là le nom donné au gisement de gaz tout juste découvert. Il renfermerait quelques 600 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Un an plus tard, dans les eaux chypriotes, c'est au tour d'Aphrodite, un autre champ gazier, d'être détecté. Presque immédiatement, la question se pose. Comment commercialement exporter tout ce gaz vers l'un des plus gros consommateurs de cette énergie fossile au monde, l'Europe? La solution envisagée s'appelle EastMed, un gazoduc géant qui partirait d'Israël pour rejoindre l'Europe via Chypre et la Grèce. En janvier 2020, la capitale grecque Athènes, Nicosie et Jérusalem orchestrent la signature d'un accord supposé constituer l'acte de naissance de ce gazoduc. Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, vante alors un futur pivot énergétique en Méditerranée orientale.
Ce gazoduc offre plus de flexibilité et d'indépendance vis-à-vis des sources d'énergie de l'Europe. C'est pourquoi l'Union européenne a soutenu EastMed dans toutes les étapes de sa maturation en tant que projet d'intérêt commun. Plus largement, le gazoduc EastMed participera à façonner un nouveau paysage énergétique, un projet qui est aussi fortement soutenu par les États-Unis d'Amérique.
Or, deux ans plus tard, le chantier n'a pas démarré et les soutiens évoqués se sont largement évaporés. Trump a quitté Washington et l'Amérique de Biden a estimé que ce gazoduc est à la fois trop long à mettre en place, trop coûteux et contraire aux intérêts environnementaux. 35 ans d'expérience dans le secteur du pétrole et du gaz, aujourd'hui consultant, Charles Elinas a notamment présidé la compagnie nationale d'hydrocarbures chypriote.
Bien que l'idée de ce gazoduc soit née en 2010, le concept d'EastMed n'a jamais évolué au point de se transformer en une réalité concrète. Tout simplement parce que techniquement, il s'agirait d'un gazoduc extrêmement long qui devrait de plus passer dans des eaux très profondes, à environ 3000 mètres de la surface. Par ailleurs, ce serait aussi très cher. Sa construction pourrait s'élever à quelque chose comme 8 ou 10 milliards de dollars.
Le gaz ainsi acheminé serait donc trop cher pour être compétitif. Très vite, le gigantisme, la complexité et le coût du gazoduc, ajoutés aux tensions avec la Turquie qui s'oppose au projet, vont transformer EastMed en un serpent de mer. Un projet régulièrement envisagé sans que jamais il ne prenne forme. Depuis, la guerre en Ukraine et la volonté européenne par mesure de rétorsion de ne plus importer de gaz russe d'ici à 2027 donnerait-il cependant une deuxième chance à EastMed? Économiste pour l'ONG Réseau d'Action Climatique Europe, Olivier Vardakoulias en doute. From a climate
perspective, vous ne pouvez pas mettre fin à une addiction en continuant à vous fournir en drogue. Certes, à présent, l'Europe essaye de remplacer le gaz russe par du gaz venu d'ailleurs. Et c'est pourquoi l'idée du gazoduc EastMed a été comme ravivée. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de nous passer des énergies fossiles. Un nouveau gazoduc maintiendrait encore l'Europe et la Grèce dans un modèle énergétique générant d'importantes émissions de gaz à effet de serre. In a high
emissions pathway. Sans compter, souligne-t-il, les risques pour les écosystèmes sous-marins en cas de fuite à 3000 mètres de profondeur. Même pour Charles Elinas, ex-président de la compagnie nationale d'hydrocarbures chypriote, ce projet entre en contradiction avec les objectifs environnementaux européens face au changement climatique.
Si l'Europe maintient l'ambition de réduire sa consommation de gaz de 30% d'ici 2030 et de 80% d'ici 2050, de nouveaux gazoducs sont incompatibles avec un tel schéma. L'Europe nous dit continuellement qu'elle n'a pas besoin de nouveaux gazoducs, donc c'est pour cela que le soutien s'est évanoui. Aujourd'hui, l'idée de ce projet est principalement maintenue en vie et propagée par les trois pays de la région, Israël, Chypre et la Grèce. Et ce, sans un soutien sérieux des entreprises qui exporteraient ce gaz. Un des acteurs principaux dans l'Est de la Méditerranée, l'américain Chevron, n'a pas montré d'intérêt particulier pour la construction de ce gazoduc, par exemple. Donc c'est un projet défendu par des gouvernements et des politiciens, mais pas forcément par l'industrie du pétrole et du gaz.
Mieux vaudrait, selon lui, prolonger les structures déjà existantes pour exporter le gaz vers l'Égypte, où il pourrait être transformé en gaz liquéfié, puis conduit en Europe par bateau. Malgré les nombreux doutes, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a cependant réaffirmé en avril que le projet EastMed, lui, était toujours bien vivant. Le serpent de mer n'a donc pour l'heure pas fini de hanter les eaux de la Méditerranée orientale.
Et on pourrait croire que la situation énergétique en Pologne est intenable, surtout depuis que le géant russe Gazprom a annoncé la fin de ses livraisons à Varsovie. Le Premier ministre avait alors parlé d'une attaque directe sur la Pologne en réponse aux sanctions imposées. En réalité, le pays se prépare depuis des années à diversifier ses fournisseurs. À Varsovie, Sarah Bakaloglou.
Dès 2019, la Pologne avait annoncé ne pas renouveler son contrat avec Gazprom à la fin de l'année 2022, afin de ne plus être dépendante de Moscou. La décision de Gazprom en avril a donc avancé les choses de quelques mois. Jusqu'à présent, Varsovie importait 45% de son gaz de Russie et 2/3 de son pétrole, ce qui n'a pas empêché le gouvernement de plaider à de multiples reprises pour un embargo sur les énergies russes. Immédiatement après l'annonce de la décision de Gazprom, Varsovie s'est donc montrée rassurante, soulignant que la Pologne s'était préparée. Les réserves de gaz sont pleines à 76%, ce qui est bien plus que la moyenne de l'UE d'environ 36%, avait déclaré la ministre du Climat, Anna Mowska, ajoutant que le système de gaz polonais est l'un des seuls dans l'Union européenne capable d'abandonner entièrement les importations de Russie. Et pour cela, Varsovie a plusieurs cartes. Tout récemment, un gazoduc a été inauguré entre la Lituanie et la Pologne. Le pays veut aussi augmenter ses importations de gaz naturel liquéfié par la mer venant du Qatar et des États-Unis à travers un terminal qui a ouvert en 2015 dans le port de Świnoujście, près de la frontière allemande. Et surtout, la Pologne compte sur le Baltic Pipe, un gazoduc qui amènera du gaz norvégien en Pologne via le Danemark. Environ 10 milliards de mètres cubes de gaz doivent arriver chaque année, soit la moitié de la consommation annuelle du pays. Ce gazoduc doit être opérationnel d'ici le début de l'année prochaine.
On l'appelle l'exception ibérique. L'Espagne et le Portugal ont obtenu des 27 pays européens un plafonnement du prix du gaz qui sert à produire de l'électricité. Seule manière d'empêcher une dérive du prix de l'électricité pour les consommateurs. À Lisbonne, les explications de Marilyn Darcy.
Les consommateurs portugais vont pouvoir souffler un peu leur facture d'électricité pour ne pas s'envoler comme ils le redoutaient. Le Portugal, conjointement avec l'Espagne, a obtenu de l'Union européenne un arrangement pour empêcher que le prix du gaz n'entraîne celui de l'électricité dans son escalade. Le mégawatt-heure, la mesure de référence en ce qui concerne le gaz, sera plafonné à 50 euros pour les prochains 12 mois. Il vaut actuellement 90 euros sur le marché. La péninsule ibérique a obtenu des 27 de l'Union européenne une décision d'abord politique en avril dernier, puis tout récemment la confirmation de la Commission européenne. Ce que l'on appelle désormais l'exception ibérique qui a suscité l'opposition de pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas par exemple est le résultat de la ténacité du Premier ministre portugais Antonio Costa, soutenu par son homologue espagnol Pedro Sanchez. La décision permet de découpler le prix de l'électricité de celui du gaz. En effet, le Portugal, dont 65% de l'électricité est d'origine renouvelable, reste dépendant des centrales thermiques à cycle combiné qui utilisent le gaz pour faire tourner leurs turbines. Par ailleurs, situés à l'ouest de l'Europe, l'Espagne et le Portugal sont coupés en quelque sorte du marché européen de l'électricité. Faute d'avancée significative de l'interconnexion avec le vieux continent via la France. Une pénalité donc pour le Portugal et son voisin, contraint d'acheter au prix fort le gaz dont ils ont besoin. Pour le consommateur final, déjà confronté à une hausse de 3% de l'électricité tous les 3 mois, la note s'annonçait très très salée à l'hiver prochain.
On en apprend tous les jours un peu plus sur les effets à long terme du Covid-19. Le Covid long, mais aussi l'impact psychologique provoqué par les confinements, les interdictions de sortie, le port du masque et tous les autres impératifs sanitaires. Les plus petits n'ont pas été épargnés, bien au contraire. En Autriche, une équipe de psychologues a mené l'enquête dans le Tyrol et conclut qu'un quart des jeunes enfants souffrent de troubles psychologiques inquiétants. À Vienne, Céline Béal.
Il y a les cas évidents. Un décès ou une perte d'emploi due au Covid-19, cela chamboule une famille. Mais dans les foyers relativement épargnés aussi, les esprits ne sont pas restés indemnes.
Ma fille joue au test Covid. Ma fille joue à la vaccination anti-Covid quand elle joue au médecin.
À Salzbourg, Karina Hertel raconte comment la pandémie de Covid-19 a fait son entrée dans le quotidien de sa fille et de son fils. Ils ont 4 et 9 ans.
Au début, nous nous sommes efforcés de tenir la pandémie à l'écart des enfants, mais nous avons tout de même dû répondre à leurs questions. Est-ce que mamie va être malade? Est-ce que nous pouvons aller lui rendre visite? Et mon fils a quand même eu beaucoup de mal à s'endormir pendant 1, 2, 3 mois. On a bien vu que cela l'angoissait.
Les signes que les enfants vont mal sont parfois difficiles à remarquer. Une équipe de la clinique universitaire d'Innsbruck mène un dépistage dans la région du Tyrol. Explication de la psychologue Sylvia Exenberger.
Dans les pays industrialisés occidentaux, et en particulier ici en Autriche, c'est la première fois que nous sommes confrontés à une crise entraînant de tels bouleversements, avec confinement et quarantaine. Donc, nous nous sommes dit qu'il y avait forcément des conséquences pour les enfants. Si les parents sont inquiets, les enfants en subissent le contre-coup.
Sylvia Exenberger et ses collègues ont interrogé, via Internet, 3000 adultes et plus de 600 enfants à intervalles réguliers entre mars 2020 et décembre 2021. Résultat, le mal-être des enfants est réel. Il se traduit par exemple par des troubles du sommeil et de la concentration ou un comportement irritable ou abattu. Des réactions souvent normales, justifiées par la situation exceptionnelle. Sauf quand elles sont le symptôme de problèmes plus inquiétants, traumatismes ou troubles anxieux en particulier, alerte la psychologue. Combien d'enfants sont concernés?
Pour les 6 à 10 ans, nous avons constaté que 6% d'entre eux avaient des symptômes cliniques en mars 2020. En décembre 2021, on est arrivé à un quart d'entre eux, 24% je crois. Donc le chiffre a vraiment augmenté. Et pour les 1 à 5 ans, le pourcentage est passé de 4 à 10%.
La détérioration suit les confinements successifs. Il y en a eu 4 en Autriche, avec fermeture partielle ou totale des écoles et des crèches. Pour la psychologue, l'encadrement apporté par les professionnels de la petite enfance est pourtant très important pour la stabilité mentale des bambins en période de crise. Visite dans une crèche du 2e arrondissement de Vienne. Une quinzaine d'enfants de 1 à 6 ans commencent leur journée en chanson. Le personnel les observe de près. Un épisode récent a profondément marqué la directrice Marianne Maurer.
Les enfants étaient en pleine discussion avec une éducatrice. Ils parlaient des costumes pour le carnaval. Elle leur demandait quel masque ils allaient porter. Et eux, ils ont demandé « Mais on sera vraiment obligé de porter un masque, même pour la fête du carnaval ?» Parce que pour ces enfants, le masque, c'est le masque chirurgical pour se protéger le visage. Alors qu'avant la pandémie, la première association des enfants avec le mot masque, c'était le déguisement. Cet épisode m'a vraiment bouleversée. Mais ce n'est qu'un exemple qui montre que la pandémie a chamboulé la vie des enfants. Davantage qu'ils ne sont en mesure de nous le dire. Pour moi, il est très important que nous les écoutions attentivement et que nous les aidions à trouver des méthodes pour révéler ces fêlures en eux et les réparer.
Comment accompagner les plus jeunes en temps de crise? L'éducatrice Katia Drazig donne des exemples.
Au tout début, quand la pandémie a commencé, on leur a demandé ce que leurs parents leur avaient dit. Et on a par exemple beaucoup parlé des mesures de sécurité sanitaire avec eux, le fait qu'ils doivent éternuer dans leurs coudes. Il y a une chanson qu'on leur a apprise pour aider à bien se laver les mains. On leur a expliqué des choses techniques à l'aide de livres d'images. On a aussi bricolé et peint des masques de protection. Bref, on s'est saisi de tous les aspects de la pandémie et on a travaillé dessus d'une manière adaptée à leur âge.
Selon la psychologue spécialisée Sylvia Exenberger, c'est exactement ce genre de travail qui permet aux enfants d'affronter la crise. Ils se sentent informés et capables de contribuer à leur échelle à la situation. Mais le travail des éducateurs et éducatrices de crèche est souvent sous-estimé en Autriche. En ce moment, beaucoup d'entre eux, dans tout le pays, réclament une revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail en posant une question : quoi de plus important pour une société que le développement de ses enfants ?
5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0.
Qu'est-ce que c'est comme matière ?
Période de stress également pour tous les étudiants européens qui planchent sur leurs examens de fin d'année. En France, les lycéens ont attaqué hier leurs épreuves de spécialité. Grande nouveauté de la réforme du baccalauréat. Après deux années hors normes pour cause de Covid, avec beaucoup d'examens annulés, où en est le moral des troupes ? C'est votre Europe. Alice Roujard, bonjour.
Bonjour. Ben, c'est vrai que ça a toujours pu être stressant de passer un examen, surtout quand c'est le premier. Mais alors, on imagine bien que ce stress peut être exacerbé après deux années de pandémie, de cours en distanciel, de rupture de lien avec le corps enseignant. Le mal-être à l'école, un phénomène qui existait déjà avant le Covid, a explosé en Europe.
Oui, on parle même de burn-out scolaire.
Tout à fait. Selon une étude publiée au Journal européen d'investigation sur la santé, la psychologie et l'éducation en septembre dernier, le burn-out scolaire, qui n'est rien d'autre qu'un essoufflement puis un abandon de l'envie d'étudier, eh bien, ça concerne quand même 15% des élèves finlandais, 20% des Italiens et près de 40% des Français, les plus touchés étant les élèves après 15 ans et plus majoritairement les filles.
Et ça, les professeurs en ont bien conscience.
Eh bien, face aux crises de pleurs, aux tétanies en interrogation, les professeurs britanniques ont bien été sommés de réagir cette année. Ils ont fait appel à des médecins ou des psychologues pour aider les élèves à gérer leur anxiété. Les chiffres ont dû augmenter, mais ils étaient déjà très parlants en 2019. 66% des élèves britanniques se disaient stressés par les cours.
Et pourtant, il faut tout de même passer ces examens.
Eh oui, toujours au Royaume-Uni, les élèves de terminale passent cette année l'examen final A-Level, qui déterminera leur entrée en études supérieures. Mais ils ne se sont jamais sentis aussi peu préparés, car avec ces deux années de pandémie, ils n'ont pas passé leur General Certificate of Secondary Education en 2020, premier vrai examen en condition. Donc tout ça, ça rajoute du stress. Ils seront nombreux cette année à bénéficier de conditions spéciales d'examen, être seul dans une salle ou avoir plus de temps pour finir l'épreuve. L'institution a aussi annoncé en février que le niveau général des notes serait abaissé.
Et est-ce que les élèves ont droit à des mesures spéciales dans tous les États européens ?
Non, pas dans tous les États européens. Si en Pologne, les élèves n'ont pas à passer d'euros cette année, en France ou en Autriche, les élèves retrouvent une formule complète de baccalauréat ou matura, c'est la formule autrichienne, avec des écrits et des euros. Alors que ça fait deux années que tous les examens ont été suspendus à la faveur de contrôle continu. Et le retour de ces grandes épreuves orales a fait un peu de tumulte en Autriche. Des milliers de lycéens ont manifesté devant plus d'une centaine d'écoles, clamant qu'ils n'avaient pas pu s'entraîner à un vrai exercice oral ces deux dernières années.
Et la Norvège semble peut-être avoir compris et anticipé cette détresse lycéenne avec un modèle vraiment très différent.
Oui, vous l'avez dit Fred, c'est un modèle très différent. En Norvège, les lycéens n'ont pas d'examen final déterminant pour la suite des études, comme c'est le cas au Royaume-Uni, en France ou en Autriche, je viens d'en parler. Ce sont plutôt des évaluations de bilan à la fin de chaque année. Mais même avec cette formule, le ministère de l'Éducation norvégien a renoncé à ces évaluations pour la troisième année consécutive. Ce qui a de quoi soulager un bon nombre de jeunes Norvégiens, comme les autres, affectés par la pandémie.
Merci Alice Roja, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site, sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain.